Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un couvre-feu à 18h étendu à de nouveaux départements, voire à toute la France. C'est la piste privilégiée par le gouvernement pour lutter contre le Covid avant une conférence de presse ce soir autour de Jean Castex. Déjà, des élus locaux s'interrogent sur le bien fondé d'un couvre-feu avancé entre bénéfices sanitaires et risques pour le moral, sans compter une baisse du chiffre d'affaires dans les magasins.
Et pendant ce temps, l'Angleterre, même reconfinée, n'arrive pas à ralentir l'épidémie.
Les soins intensifs et les services psychiatriques frôlent la saturation. Reportage dans un instant.
À la une encore, l'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste.
Elle avait été citée parmi les proches d'Olivier Duhamel, accusé de viol incestueux sur son beau-fils adolescent. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Le dictateur Ben Ali quittait sous la pression populaire la Tunisie pour l'Arabie Saoudite. Premier chapitre des Printemps Arabes, une journée spécial ce jeudi sur France Culture, et dans ce journal nous entendrons les désillusions de jeunes Tunisiens 10 ans après la révolution. Ils sont confrontés aujourd'hui au chômage et au salafisme.
Et on va revenir longuement effectivement sur ce thème, y compris dans la question du jour. Face au Covid, comment la Tunisie gère-t-elle la crise? Je poserai la question à Maddy Elouche, analyste politique.
Ils seront 5 ministres autour de Jean Castex ce soir. Olivier Véran à la santé, Jean-Michel Blanquer à l'éducation, Bruno Le Maire pour l'économie, Roselyne Bachelot à la culture et Frédéric Vidal pour l'enseignement supérieur entoureront donc le Premier ministre lors de son point presse à 18h. Signe de nouvelles restrictions sanitaires à venir pour lutter contre la propagation du Covid, avec plus de 23 000 nouveaux cas recensés hier en 24 heures. Pas de reconfinement envisagé pour l'instant, mais peut-être un élargissement de la liste des 25 départements actuellement sous couvre-feu dès 18h. Mais sur le terrain, les élus ne sont pas tous persuadés de l'opportunité d'une telle mesure, Rosalie Lafarge.
Ce qui inquiète particulièrement l'exécutif, c'est la circulation du variant anglais du virus. Et dans les territoires où l'on a déjà repéré la souche britannique, la menace d'un couvre-feu avancé à 18h semble encore plus réelle qu'ailleurs.
18h me paraît une décision un peu trop rigoureuse.
Gilles Bourdoulex est le maire d'hiver droite de Cholet, où 3 personnes d'une même famille ont été testées positives au variant.
Moi je m'interroge si entre 18 et 20h, on pourrait pas dire 19h. Alors vous allez me dire, mais c'est histoire de discuter. Oui, mais quand même, 19h c'est un signal. Alors ça peut-être empêcher quelques rassemblements de fin de soirée. Et d'un autre côté, ça permet quand même à la vie commerciale de continuer. Et ça me paraît plus raisonnable pour la vie économique, mais aussi pour le moral des Français.
Olivier Becht non plus n'est pas favorable au couvre-feu des 18h. Président du groupe Agir à l'Assemblée nationale, allié de la majorité présidentielle, il est député du Haut-Rhin, département déjà concerné par la mesure.
Ce qui est impératif aujourd'hui, c'est que nos concitoyens puissent le plus rapidement possible retrouver une vie normale. Or, on voit bien que les mesures de confinement ou de couvre-feu, finalement, bouleversent la vie. Donc nous sommes de ceux qui pensons que le véritable combat, il se fait sur le terrain contre le virus, tester massivement et systématiquement là où le virus circule le plus, accompagner les personnes dans l'isolement. C'est un combat de guérilla qui doit se faire quasiment rue par rue là où le virus circule le plus.
Mais c'est bien pour ralentir cette circulation que l'extension du couvre-feu est envisagée. D'après le gouvernement, là où ce couvre-feu a été avancé, le virus circule aujourd'hui moins qu'ailleurs.
Et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, pourrait annoncer ce soir un renforcement du protocole sanitaire de l'école jusqu'au lycée, dans les cantines notamment. Mais les établissements scolaires devraient rester ouverts, contrairement aux fermetures décidées en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche ou encore au Royaume-Uni. La crise sanitaire qui se double d'une détresse psychologique, l'Angleterre, reconfinée depuis une semaine maintenant, subit cette réalité de plein fouet. Alors que plus de 1500 personnes sont mortes du Covid hier, c'est un nouveau record au Royaume-Uni. Le pays n'arrive pas à enrayer la propagation du variant du coronavirus. Afflux de patients en soins intensifs, mais aussi dans les services psychiatriques. Exemple, dans le nord de l'Angleterre, où Richard Place a recueilli le témoignage du chef du service psychiatrique de l'hôpital de Chesterfield.
À la simple question « Comment ça va ?», Matt répond d'abord par un long soupir.
Just exhausted.
Épuisé physiquement et psychologiquement. Dans le service qu'il dirige, chaque soignant s'occupe d'une 30aine de patients en temps normal. Actuellement, c'est 50 chacun. Et parmi ces malades, des collègues. Comme cette infirmière réquisitionnée pour donner un coup de main en soins intensifs au front.
Psychologiquement, elle n'était pas prête. Alors elle a souffert d'un syndrome post-traumatique, ce que l'on voit généralement chez les soldats qui reviennent de la guerre. Elle a sombré dans l'alcool, la dépression, et elle a essayé de mettre fin à ses jours.
Il y a la maladie, bien sûr, mais il y a aussi la peur de la contracter, du confinement, de l'isolement, de cette période qui rend les gens fous. Matt fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas assez. Il en veut à son gouvernement, qui n'a pas pris les bonnes décisions, selon lui, et hormis le confinement strict et la vaccination, il n'y a plus rien à faire, dit-il.
C'est trop tard, beaucoup trop tard. Il y a des mois, le conseil scientifique les a alertés, preuve à l'appui, ils les ont ignorés. Et maintenant, regardez, les chiffres de mortalité sont terribles. Ils ont perdu le contrôle du virus.
Sa grand-mère a été emportée par le virus il y a moins de 2 semaines. Il lui a dit adieu par visioconférence.
Et pour lutter contre le Covid, le Royaume-Uni prévoit de déployer sa campagne de vaccination 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Boris Johnson. En France, après les personnels soignants des structures hospitalières, dès aujourd'hui, les vaccinations sont ouvertes aux personnes de plus de 75 ans. Plus de 247 000 personnes ont été vaccinées à ce jour, selon la Direction générale de la Santé. Le comité d'urgence de l'OMS se penche aujourd'hui sur les nouveaux variants du coronavirus. Le britannique a été repéré dans 50 pays, une vingtaine pour le variant sud-africain. Et la Chine, où l'épidémie était apparue fin 2019, rapporte ce matin son premier décès depuis 8 mois dû au coronavirus. Il intervient alors qu'une équipe d'experts de l'OMS est arrivée aujourd'hui dans le pays à Wuhan, berceau de la pandémie. Ces experts devront se contenter d'enquêter sur l'origine animale du SARS-CoV-2. C'est ce que souligne l'historien François Godemant, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne.
Il faudrait qu'elle ait un droit de voyage important parce qu'il y a 2 origines possibles, on voit bien. Aucune hypothèse ne prévalant absolument sur l'autre. Commençons par la plus sulfureuse, c'est-à-dire l'hypothèse de l'accident de laboratoire. Dans tous les pays du monde, quand on soupçonne, même de loin, cette hypothèse, ce qu'on commence par faire, c'est par déterrer absolument toutes les bandes de données et bien sûr, toute note qui aurait pu être faite d'un accident de manipulation, d'une erreur. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Et encore récemment avérées en Chine et elles arrivent dans d'autres pays. Il faudrait donc pouvoir avoir accès à ces documents et avoir accès aux personnes qui ont enregistré ces documents. L'aura-t-elle ou non, cela reste à voir. L'autre recherche qu'il faut pouvoir mener de façon approfondie, qui est extrêmement difficile et qui peut être très longue, c'est dans le domaine de l'origine zoonotique, c'est-à-dire à partir du règne animal et de la transmission du virus depuis les animaux jusqu'à l'homme, d'aller chercher tous les spécimens d'animaux susceptibles d'avoir été les hôtes intermédiaires. Et ça, c'est un travail de détective qui nécessite d'avoir accès à beaucoup d'endroits. C'est un processus qui nécessite une grande liberté d'enquête. Aura-t-elle cette possibilité? Je ne pense pas qu'elle y arrivera en une fois. Au mieux, elle établira des jalons pour un processus d'enquête.
François Godemant, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne, au micro de Tara Schlegel. Tara qui signe une longue enquête sur franceculture.fr avec 4 spécialistes pour tenter de répondre à cette question. Covid-19, l'OMS percera-t-elle le mystère de l'origine du virus?
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, c'est d'ores et déjà un succès en librairie, en plus d'être un livre qui change notre société.
La Familia Grande, Camille Kouchner y accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'inceste. Elle écrit également que le cercle proche savait ce que subissait son frère jumeau dans les années 80. « Je ne pardonne rien », a déclaré hier Camille Kouchner, invitée de la Grande Librairie sur France 5. Ce livre et cette onde de choc ont entraîné 2 nouvelles démissions. Hier, 2 proches d'Olivier Duhamel qui rappellent qu'il n'était pas au courant. Le préfet d'Île-de-France, ex-secrétaire général du gouvernement Marc Guillaume, renonce à ses fonctions à Sciences Po et à la revue Pouvoir qu'il co-dirigeait avec Olivier Duhamel. Et puis Elisabeth Guigou, qui présidait la nouvelle commission indépendante sur l'inceste, vient également de démissionner Stéphane Robert.
Elle était une proche du politologue Olivier Duhamel. Elle faisait partie de la petite bande invitée régulièrement l'été à passer des vacances dans la maison familiale de Sanary-sur-Mer. Elle affirme pourtant avoir toujours ignoré les faits gravissimes reprochés à Olivier Duhamel, accusé d'avoir imposé des rapports sexuels incestueux à son beau-fils alors qu'il était adolescent. Un autre proche du politologue est éclaboussé par cette affaire, Marc Guillaume, actuel préfet de l'Île-de-France, ancien secrétaire général du gouvernement. Il était surnommé le Premier ministre bis du temps d'Édouard Philippe et considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Il connaissait Olivier Duhamel depuis des années et siégeait à ses côtés à la tête d'organismes prestigieux, la FNSP, Fondation Nationale de Sciences Po, la revue Pouvoir, fondée par Duhamel en 77, et le très élitiste club parisien Le Siècle, dont il était vice-président. C'est de toutes ces instances, co-dirigées avec Olivier Duhamel, qu'a décidé de démissionner Marc Guillaume. Pour quelles raisons ? Mystère, on ne sait pas. C'est d'autant plus surprenant qu'il affirme lui aussi avoir appris il y a seulement quelques jours les accusations de viol sur mineur. Un très haut fonctionnaire qui le connaît bien affirme qu'il y a peut-être là de l'irritation et une volonté d'échapper au procès de l'entre-soi qui accompagne cette affaire. Un autre explique que tout ça est tellement sulfureux qu'il convient sans doute pour Marc Guillaume de s'en éloigner au plus vite pour ne pas insulter l'avenir.
C'est François Bayrou qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Marielle de Sarnez, la numéro 2 du Modem, bras droit du patron du parti, a succombé à une leucémie à l'âge de 69 ans. La classe politique lui rend hommage. C'était une utile influente discrète aux yeux de Jean-Luc Mélenchon. Respectueuse et attentive, explique Marine Le Pen. Ses combats resteront plus que jamais les nôtres, a tweeté le Premier ministre Jean Castex. Carrefour, le géant français de la distribution, va-t-il passer sous pavillon canadien ? Le groupe Couche-Tard a dévoilé hier une offre de rapprochement amical avec la société française. Couche-Tard est un groupe spécialisé dans les dépanneurs, la version québécoise des épiceries. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirme qu'il n'est pas favorable à cette opération au nom, dit-il, de la souveraineté alimentaire française. Une acquisition qui interroge également la presse économique québécoise, dubitative sur les appétits insatiables du patron de Couche-Tard, Alain Bouchard. C'est ce que nous dira Camille Magnard dans la revue de presse internationale après le journal de 7h30. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Le dictateur Ben Ali cédait le pouvoir en Tunisie sous la pression de la rue. Premier chapitre des printemps arabes. Aujourd'hui, la Tunisie ne va pas célébrer cette date. Un confinement de 4 jours vient d'être décrété. Pour les autorités, il s'agit de barrer la route à l'épidémie de Covid. Mais pour de nombreux Tunisiens, il s'agit plutôt de tuer dans l'œuf la colère qui ne cesse de grandir dans le pays. Il y a 10 ans, par exemple, les jeunes étaient descendus dans la rue pour réclamer du travail. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont plus au rouge, mais au rouge vif. Le reportage sur place de Maureen Mercier.
Oussema, 25 ans, rêvait de pouvoir s'épanouir, mais au lendemain de la révolution, il découvre la face obscure de sa ville. Les salafistes.
Ils ont commencé à former de petits groupes qui terrorisaient les gens. Et très vite, ils sont devenus aussi puissants que la police.
Oussema fait alors partie d'un petit groupe de musique.
Ils nous ont accusés d'être athées parce que nous faisions de la musique. Un jour, ils ont débarqué au lycée et ils m'ont tabassé. Ils nous ont aussi mentionnés dans les mosquées pour dire que nous étions des mécréants et qu'il était légitime de nous tuer.
Depuis, les choses se sont apaisées, mais pour Oussema, impossible de s'épanouir dans cette ville trop conservatrice. Il s'empêche de tomber amoureux. Alors, une vie sexuelle ?
Zéro vie sexuelle, oui.
Je n'y pense même pas parce que ça me rend triste. Ici, le simple fait qu'un garçon et une fille se parlent dans la rue est très mal vu. On n'a même pas de café où on peut se retrouver en couple.
Pour cela, il faudrait s'exiler dans les grandes villes. Oussema suffoque à Sidi Bouzid et il ne croit plus en son pays.
Mon rêve est de quitter la Tunisie. Je ne crois pas qu'il y ait eu de révolution ici.
10 ans après la révolution, selon une étude récente, plus d'un jeune sur deux espère quitter le pays.
Les printemps arabes, 10 ans après, journée spéciale ce jeudi sur France Culture, qui se poursuit dans les matins avec vous et vos invités, Guillaume Erner. Quelques mots du temps de ce jeudi 14 janvier, marqué par de la neige et du verglas dans le nord-est et dans les Alpes, de la pluie dans la moitié ouest, du soleil en revanche, près de la Méditerranée. Et au meilleur de la journée, il fera entre 7 et 15 degrés du nord au sud,
Guillaume Erner. Merci beaucoup, Catherine Dutu. À 7h25, le reportage de la rédaction, il nous emmènera en Allemagne. La première économie d'Europe pourra-t-elle se relever de la crise économique dès cette année? Un grand reportage à suivre, signé Ludovic Piétenu, et puis dans quelques instants...